Chapitre 67. Les jours suivants, pour l'aider à se remettre de cette perte douloureuse, Alice reste au chevet de sa fille. Elle l'installe dans une chambre à côté de la sienne, dans le chalet de Benjamin, et passe ses journées assise dans un fauteuil, au pied du lit. Ophélie est endormie. Alice veille sur elle. De la fenêtre de la chambre, elle contemple Val Thorens. Le village, placé au creux des trois montagnes avoisinantes, a bien changé depuis son arrivée. Désormais, des aérials sillonnent le ciel en tenant des valises, des sacs de course ou des passagers sapiens. Des plateformes de décollage, semblables à des arrêts de bus, ont été construites sur le toit de certains chalets, ainsi que des escaliers extérieurs pour y accéder. Les couleurs aussi ont changé. Dans le quartier dit des Chimères, toutes les maisons sont entièrement peintes en blanc. C'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaît qu'elles sont habitées par des aérials. Parfois, dans le ciel, passent des hybrides qui brandissent de longues banderoles. La publicité qu'ils traînent derrière eux vante tour à tour les mérites d'un restaurant gastronomique aérial ou annonce des ventes de vêtements spécialement conçus pour dégager les ailes. Ophélie se tourne et se retourne dans son lit. Soudain, elle se réveille en sursaut comme après un cauchemar.
« Hermès ! » crie-t-elle. « Où est Hermès ? Pourquoi n'est-il pas là ?»«
Il est très occupé, tu sais. » lui répond sa mère. La jeune femme se concentre pour retrouver son calme. Alice essuie la sueur qui perle sur le front pâle de la malade. « Comment te sens-tu ? »
« Je me sens... vide. Inutile. Et Hermès qui n'est jamais là. Depuis ma fausse couche, il est différent. Plus distant. Comme s'il m'en voulait et me tenait pour responsable de cet échec. »
Ma chérie, il est forcément déçu, lui aussi, et malheureux. Il essaie de ne plus y penser en se plongeant dans son travail. Être roi des aérials demande beaucoup de disponibilité, quels que soient les drames qui se produisent dans sa vie. La jeune femme pousse un long soupir.
« Et toi, maman ? Je te déçois pas trop ?»«
Ne dis pas de bêtises. Non, ma fille, au contraire. » Tu m'as apporté une information capitale qui me manquait. Maintenant, grâce à toi, je sais qu'il ne peut y avoir de métissage entre Sapiens et Aerials. Une barrière d'espèce existe bel et bien entre nous et les hybrides.
J'espérais vraiment qu'il pourrait naître.
La jeune femme se remet à pleurer.
J'aurais dû y réfléchir et lui en parler avant.
À quoi auraient ressemblé ces nouveaux êtres ? Seraient-ils nés avec des demi-ailes ? Comment aurait-il pu voler, alors ? C'est Benjamin qui m'a rappelé que les poulets, dont les ailes sont réduites, n'arrivaient pas à décoller et qu'ils étaient devenus les proies de tous les prédateurs. Nous allons pouvoir mettre en garde les autres couples mixtes qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. Les sanglots de la jeune femme redoublent d'intensité. Alice prend sa fille dans ses bras. L'amour n'est pas forcément lié à la procréation. C'est ce qui fait tout le prestige de l'être humain. Nous pouvons aimer sans qu'il y ait forcément un projet de bébé. Moi-même, je pensais, du fait de mon endométriose, ne jamais pouvoir avoir de descendance. Et puis, tu es arrivée. Ophélie regarde le ciel au dehors. Au loin, quelque chose l'intrigue. Elle plisse les yeux, puis elle se dresse sur ses coudes. Malgré la douleur qu'elle ressent encore dans le bas-ventre, elle parvient à se mettre debout et, soutenue par Alice, marche jusqu'à la fenêtre dont elle ouvre les deux battants. Hermès, en lévitation au-dessus du village, donne l'impression d'être assis sur un nuage. Ophélie rit de cette plaisanterie et agite joyeusement le bras dans la direction de son compagnon. L'homme chauve-souris enchaîne les loopings, puis se maintient un instant en suspension et reprend son vol en dessinant un cœur. Aussitôt, Ophélie lui répond en traçant elle aussi un cœur imaginaire avec son doigt et feint de le souffler dans sa direction. C'est alors que les deux femmes distinguent une seconde silhouette dans les airs. C'est une aériale qui trace elle aussi un cœur imaginaire. Les deux hybrides se lancent ensuite dans une série de figures aériennes compliquées avant de se retrouver dans les ailes l'un de l'autre et de s'embrasser. Le visage d'Ophélie change aussitôt. Elle vacille. Alice la soutient.
« Non !»
murmure la jeune femme, sidérée. Alice la serre dans ses bras et la force à se retourner pour ne plus voir la scène qui se déroule dans le ciel.
« Je ne comprends pas !»
bafouille Ophélie, dont les yeux gris s'embuent de larmes. « Hermès est un hybride. Les hybrides ont des mœurs différentes.
Mais... »
Alice tente d'apaiser sa fille. « Ils sont encore une jeune espèce, et la pulsion de reproduction est probablement plus forte que le sentiment amoureux abstrait qui est apparu finalement très tard, même pour notre espèce sapiens. »«
Abstrait ?»«
Oui, notre sentiment amoureux peut parfois être irrationnel. » Ophélie s'assoit sur son lit et dit avec hargne.
Alors, ce qui est le plus rationnel, c'est qu'il soit déjà avec une autre femme, c'est ça ?
Il est avec une femelle de son espèce, rectifie Alice, et tu ne pourras rien contre ça. Ophélie, atterrée comme anesthésiée, se recouche et enfonce sa tête dans son oreiller pour pleurer à chaudes larmes. Quel crétin ! Il aurait pu au moins attendre un peu avant de s'afficher avec une autre. Vraiment, je ne comprends pas les hommes, hybrides ou sapiens. Ou plutôt, si, mais leur comportement est si égoïste.
Ma pauvre chérie, tu croyais que ton couple était un modèle de modernité, tu n'as fait que reproduire un schéma très ancien.
On frappe à la porte. Alice ouvre et tombe nez à nez avec Jonathan, un bouquet de fleurs à la main.
Comment va-t-elle ?
Demande-t-il à voix basse.
Pas terrible. Elle a toujours mal au ventre ?
Non, maintenant c'est plutôt le cœur qui est touché. Jonathan fronce les sourcils.
Un problème cardiaque ?
Non. Sentimental. Entre. Jonathan s'approche d'Ophélie, lui prend la main et lui chuchote.
Je suis désolée du drame que tu traverses. Je n'ai pas d'aile, mais je suis là si tu as besoin de moi.
La jeune femme cesse de sangloter et laisse sa main dans celle de Jonathan. Puis elle sort sa tête de l'oreiller et tente de sourire.
Je crois que je suis un peu lassée des gens qui volent.
Je n'avais jamais autant perçu la perfidie de ce jeu de mots. Hermès, le roi qui vole, est le roi des voleurs. Il porte bien son nom.
La jeune femme aux cheveux mauves s'essuie les yeux, puis plante son regard dans celui du fils Wells.
Laisse-moi juste un peu de temps, Jonathan.
Je suis certain que skier sur des pistes noires peut t'apporter autant de plaisir que voler avec un aérial,
dit le jeune homme avec un sourire doux. Pour toute réponse, elle lui serre un peu plus fort la main. Cependant, sans même qu'elle en prenne conscience, ses yeux vont naturellement vers la fenêtre, dans le cadre de laquelle elle distingue encore Hermès et sa nouvelle compagne. Jonathan le remarque et serre un peu plus la main de la jeune femme. Les deux jeunes gens échangent un regard tendre. Alice, sentant qu'elle est de trop, préfère quitter la pièce pour les laisser seuls. Dans l'escalier qui mène au salon, elle croise Benjamin.
Alors, comment va-t-elle ?
Je crois que nous avons bien fait d'amener Ophélie ici. La présence de ton fils lui apporte beaucoup de réconfort. Elle allume un feu dans la cheminée, se sert un verre de pinot noir et s'installe dans un fauteuil.
J'ai envie de penser à autre chose. Cette histoire avec Ophélie me mine.
Tu as raison. Et j'ai peut-être une idée.
Benjamin s'assoit près d'elle face au feu qui commence à ronronner.
Ton projet métamorphosis était basé sur trois éléments. L'air pour les aérials, l'eau pour les nautiques et la terre pour les diggers. Mais il manque un élément. Il y en a quatre en tout.
Le feu ? Dit Alice en ajoutant une bûche dans l'âtre.
Ne crois-tu pas que tu devrais stabiliser ce triangle blanc pour l'air, bleu pour l'eau, noir pour la terre, en ajoutant du jaune pour le feu ?
Je n'ai pas de matériel pour fabriquer un nouvel hybride.
Elle se rassoit et fait tourner le vin dans son verre à pied.
Détrompe-toi, rétorque Benjamin. J'ai été autorisé à emporter dans nos bagages du matériel de pointe en cas de guerre bactériologique. Il est stocké dans un garage de la mairie.
Alice réfléchit un instant puis déclare « Quand bien même nous aurions du matériel exceptionnel pour nos expériences, il me manque l'ingrédient principal et irremplaçable, des gènes correspondant à un animal lié au feu. Eh bien, il y a un animal qui pourrait te fournir les gamètes nécessaires pour ton prochain hybride. Et il est, selon beaucoup de légendes, lié au feu.
Un phénix ?
Plaisante Alice. Un animal qui existe vraiment. Benjamin prend un air énigmatique qui exaspère Alice.
Arrête de faire ton mystérieux. Je ne vois pas quel animal réel peut être lié au feu, même dans les mythologies.
La salamandre, répond le ministre. Alice ne peut masquer sa surprise.
Tu voudrais que j'invente un quatrième hybride qui serait un homme salamandre ?
Ainsi, nous aurions les quatre éléments au complet, l'eau, l'air, la terre et le feu. Sans compter qu'un système à quatre joueurs est plus carré, donc plus stable.
La scientifique n'arrive pas à quitter des yeux la danse des flammes dans la cheminée.
Benjamin continue de me guider. C'est lui déjà qui avait eu l'intuition d'inventer deux hybrides en plus de l'homme chauve-souris. Et je l'en remercie, malgré les conflits actuels.
C'est toi-même qui m'as dit que Mère Nature n'éliminait pas les projets ratés ou en fin de course, mais en ajoutait de nouveaux, argumente-t-il. Cet hybride homme-salamandre pourrait être une solution aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui.
Alice fixe les flammes.
Il a raison. C'est peut-être ça la grande idée. Continuer d'aller de l'avant au lieu de m'apitoyer sur les erreurs passées. Pourquoi ne pas me lancer à la conquête du quatrième élément, le feu ? Je ne suis pas à l'âge de la retraite, j'ai encore du potentiel. Je peux être utile à la nature pour l'aider à diversifier ses créatures.
Benjamin se lève, va chercher l'encyclopédie du savoir relatif et absolu sur son bureau et la lui tend déjà ouverte.
Tu vas comprendre pourquoi les salamandres sont associés au feu.
Elle lit. Le chapitre évoque les salamandres et leur habitude d'hiberner souvent dans des souches creuses. Or, ce bois était souvent récupéré pour servir de bois de chauffage. Une fois dans l'âtre, les bûches brûlaient, ce qui réveillait les salamandres qui, dès lors, surgissaient du feu. Autre détail qui relie salamandre et feu, les salamandres françaises, de couleur noire tachetée de jaune vif, avaient une salive toxique qui brûlait la peau de ceux qui tentaient de les toucher, et la tradition populaire les avait donc associés au feu. Alice poursuit sa lecture et découvre qu'en 1510, un médecin botaniste, Joachim Camerarius, a noté que la salamandre est le seul animal capable de survivre dans le feu. Pour cette raison, explique l'encyclopédie, François Ier l'a pris comme emblème afin de faire passer le message suivant. Il survivrait à toutes les épreuves. Et il adopta pour devise « Nutrisco et extinguo », qui signifie « Je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais ». Elle apprend ensuite qu'en 1565, le médecin philosophe et alchimiste suisse Paracels a mis en relation les quatre éléments et certaines créatures magiques. Les nains qui vivent sous les montagnes pour la terre, les ondines, femmes sirènes des lacs et des rivières pour l'eau, les elfes pour l'air et les salamandres pour le feu. L'artillerie française a elle aussi pris pour emblème une salamandre entourée de flammes avec comme devise « Nous aussi, nous sommes à l'épreuve du feu. » Enfin, Alice apprend qu'en 1750, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis voulut vérifier la légende selon laquelle les salamandres résistent au feu. Il en jeta des dizaines dans une cheminée et constata scientifiquement que la légende était fausse.
« Où vais-je trouver une salamandre à Val Thorens ?»
dit Alice en reposant le volume sur ses genoux.
On pourrait aller faire un tour au parc animalier du Creuset. Je m'y suis déjà rendu plusieurs fois et il y a encore beaucoup d'animaux là-bas.
Ils ont pu survivre dans des cages ou des aquariums durant toutes ces années ?
S'étonne la scientifique.
Certains vivaient dans des milieux naturels ouverts, reconstitués. Ils ont continué à y vivre et à s'y reproduire sans intervention humaine.
Et donc, il y avait des salamandres, tu dis ?
Plus précisément, des salamandres axolotles, dans une sorte de petite piscine avec un décor de marécage.
C'est quoi des axolotes ?
Ça se prononce Axolotl, avec un TL à la fin. C'est un mot mexicain d'origine aztèque.
Alice n'arrive pas à quitter des yeux les braises face à elle.
Axolotl ?
Regarde, dit Benjamin en attrapant l'encyclopédie sur les genoux de sa compagne et l'ouvrant de nouveau. Il y a un passage qui parle de cette salamandre si particulière.